voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec
Nathalie Cabrol, astrobiologiste.
Cinquième épisode, qui sommes-nous ? Bonsoir Nathalie Cabrol.
Bonsoir Caroline.
Hier, nous avons parlé de la vie extraterrestre, de la recherche de la vie extraterrestre dans notre système solaire et en dehors peut-être de notre système solaire. Nous étions aux frontières de la vie, en quelque sorte. Ce soir, j'aimerais que vous abordiez avec nous les nouvelles perspectives, les nouveaux questionnements, peut-être des questionnements plus métaphysiques, nous allons voir. En reprenant cette phrase de Carl Sagan que vous citez vous-même, la nature de la vie sur Terre et la recherche de la vie ailleurs sont les deux faces d'une même question, la recherche de qui nous sommes. Alors, nous voilà dans une très très vaste question qui nous occupe depuis plusieurs millénaires et nous avons 30 minutes pour y répondre avec vous ce soir.
C'est mieux que la minute et demie que j'avais hier soir.
Alors peut-être on peut commencer par ce paradoxe, on navigue de paradoxe en paradoxe puisque... En fait, bien que nous cherchions la vie ailleurs que sur Terre, les astrobiologistes, et peut-être même nous, citoyens, hein, on se rend bien compte que nous ne sommes pas toujours d'accord, ou nous ne sommes toujours pas d'accord, ça va dans les deux sens, sur ce qu'est la vie.
Non, on n'a pas de définition de la vie, on a des définitions de travail de la vie, on en a 123. Et d'aucuns, dont je fais partie, disent que ce ne sont pas des définitions, mais ce sont des descriptions de la vie. Et puis, donc c'est le plus gros paradoxe de l'astrobiologie, parce qu'on part chercher ailleurs quelque chose dont on n'a pas vraiment idée de ce que ça représente. Et c'est en plus une expérience extrêmement difficile du point de vue scientifique, parce que nous sommes à la fois l'expérience et l'expérimentateur.
Mais alors, ça pose quoi comme question pour vous, au concret, au quotidien même ?
C'est terriblement difficile de pouvoir s'extraire.
C'est des handicaps.
C'est aussi pourquoi on a un petit peu de problèmes à l'heure actuelle. On aborde la question de la vie sous la forme de l'environnement dans lequel elle peut apparaître. Et donc ça, c'est l'origine de la vie. Mais pour pouvoir avancer dans cette question, je pense que à l'heure actuelle, il y a beaucoup de gens qui se rendent compte qu'il faut qu'on change un tout petit peu notre perspective et qu'on s'intéresse un tout petit peu plus à la nature de la vie.
Alors, pour éviter les élucubrations en matière de vie extraterrestre, peut-être aussi les fausses alertes, il me semble que les astrobiologistes ont mis au point une échelle de détection de la vie. Alors, à quelles conditions peut-on reconnaître la vie ?
C'est une échelle qui s'appelle donc l'échelle de détection de la vie et dont on essaye de se servir. La raison pour laquelle on l'a créée, c'est tout simplement parce que il y a eu quelques épisodes dans l'histoire de l'exploration où on a pensé qu'on avait découvert la vie. Il y a trois épisodes en particulier. Le premier, c'était sur Mars avec Viking. Lorsque les deux landers ont fait des expériences de biologie et que certaines de ces expériences semblaient montrer la possibilité d'un métabolisme. Et puis, avec le temps, on s'est rendu compte que c'était simplement une méconnaissance de l'environnement martien. À l'époque, on y était allé, on n'avait aucune information sur ce que l'environnement était. Et donc, pour pallier à ça, eh bien, on a fait un programme intégré d'exploration de Mars pendant des décennies. Et on a commencé à essayer de comprendre la géologie, l'environnement passé et présent. Ensuite, ça a été le climat passé et présent. Et ensuite, on a envoyé les deux rovers, Spirit et Opportunité, pour essayer de voir si Mars était habitable par le passé. Maintenant qu'on a démontré l'habitabilité passée de Mars, eh bien, on a envoyé Curiosité et Persévérance pour enfin, à nouveau, 40 ans après, pratiquement 50 ans après, oui, 40 ans après, les Vikings, enfin, à nouveau chercher la vie. La deuxième fausse alerte qu'on a eue, elle venait de Mars aussi, c'était la météorite martienne, Allen Hill. Et il y avait à l'intérieur de cette météorite des petites structures qui ressemblaient étonnamment à des bactéries, ou en tout cas à des fossiles de bactéries terrestres. Et il y a un débat qui dure toujours. Il y a toujours des gens pour dire aujourd'hui que c'est la preuve de bactéries terrestres. Mais si ce sont vraiment... Pas des bactéries terrestres, mais des bactéries martiennes. Mais si ce sont vraiment des bactéries martiennes, elles ressemblent étonnamment aux bactéries terrestres. Et donc ça pose des problèmes, mais il y a d'autres problèmes. À l'heure actuelle, avec une meilleure technologie, une meilleure technique, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de chances pour que ce ne soit pas le cas.
Mais donc ça ne nous dit pas à quelles conditions on reconnaît la vie.
Non, et on n'y est pas encore, parce qu'il y a récemment, il y a eu la phosphine sur Vénus. La phosphine, c'est un gaz qui est un gaz biogénique, qui est généralement, en tout cas sur Terre, produit par la vie. Et il n'y a pas d'autre moyen de le produire. Et des chercheurs ont produit un papier avec un spectre de la spectroscopie qui montrait un pic qui semblait être celui de la phosphine. Alors évidemment, puisque c'est biogénique, il y a beaucoup de collègues qui se sont mis sur le cas de cette annonce et qui ont essayé de vérifier l'observation. Et tout le monde s'accorde à dire que ça n'est pas le cas. Problème d'instrumentation, problème dans les données, etc. Les gens qui ont produit, les chercheurs qui ont produit cette étude ont continué aussi, continuent de dire qu'ils voient de la phosphine. Donc, le problème avec l'échelle qu'on a créée, c'est pour se donner une méthode. C'est pour se donner une méthode, combien de mesures doit-on faire, combien de fois doit-on vérifier, à quelle échelle, avec quels instruments, etc. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse dire qu'on a enfin découvert la vie? Et tant qu'on va chercher de la manière dont on cherche maintenant, c'est-à-dire les environnements de la vie, et tant qu'on n'aura pas une définition de la vie, c'est une meilleure méthode. Mais il faudrait vraiment quelque chose de particulier pour qu'on sache que véritablement on a trouvé la vie. Et même Sagan disait qu'avec cette échelle, le dernier échelon de l'échelle de détection, même quand on a répondu à toutes les conditions, il y a encore le principe du sceptique. Et ça, c'est la vision de Sagan en disant que l'hypothèse de la vie doit rester absolument le dernier recours. Donc, à l'heure actuelle, on n'est pas véritablement dans une position. Ma plaisanterie à moi, c'est de dire qu'on pourrait savoir qu'il y a de la vie si, par exemple, demain, on voyait un lapin sauter devant un rover, devant Mars, devant les caméras, s'il y avait quelque chose de spectaculaire comme ça. Alors, vous me direz, ça pourrait être un lapin robotique, ça, c'est pas forcément vivant, mais au moins, ça nous dirait qu'il y a quelque chose qui a construit la technologie pour... Mais on n'est pas dans une position très très favorable pour reconnaître la vie ailleurs. Ce qu'on va reconnaître, c'est des choses qui cochent ces cases qu'on a dans l'échelle de détection. On a ces 8 échelons pour pouvoir essayer de détecter la vie. Et le plus on monte haut, le plus on a de chance.
Le plus on se rapproche.
C'est une probabilité. C'est un petit peu un argument probabilistique là aussi.
Est-ce que vous n'êtes pas obligée, Nathalie Cabrol, pour vous approcher donc de peut-être d'une définition, à défaut d'une description de la vie ou de la nature de la vie, de vous tourner vers d'autres disciplines, de vous aider des recherches, des biologistes qui d'ailleurs discutent aussi parfois pour savoir si un virus est vivant ou non vivant, mais d'aller chercher ailleurs.
Les virus sont des génomes extrêmement complexes. Ça fait partie des questions qu'on a. Et les biologistes ont fait beaucoup de progrès, aussi de savoir si c'est une transition entre la chimie prébiotique ou une rupture. Ça dépend dans quelle position on se place. Si véritablement on regarde, comme Oparine et tous ces chercheurs, la vie comme une suite et une plus grande complexité d'agencement de molécules, alors il n'y a pas véritablement de raison de définir la vie à un point particulier. C'est une transition, c'est difficile. Tandis que si c'est un accident, ou même pas, vous pouvez dire que l'ARN ou l'ADN, à un moment où on transmet l'information, à ce moment-là, c'est du vivant. Ça dépend de la
personne. Chaque était vivant et mort à la fois aussi.
Oui, ça c'est Schrödinger.
Ça nous remonte dans les années 40-50.
Mais effectivement, donc, je pense que ce qui se produit à l'heure actuelle, c'est ce que Schrödinger avait vu il y a 80 ans maintenant, et c'est ce changement de perspective. Les environnements favorables à l'apparition de la vie, il y en a des tas, et ça va nous mener simplement à certains modèles de la vie. Mais par contre, quand on commence à regarder la nature de la vie, qui n'est plus nécessairement du domaine de la biologie, alors dans ce cas, ça devient beaucoup plus intéressant. Parce qu'on regarde pas la biochimie, on regarde le processus de la vie. Et ça nous emmène dans la cosmologie, ça nous emmène dans la physique et ça nous emmène dans le fonctionnement de l'univers. Et il y a des modèles à l'heure actuelle, comme le modèle de Jeremy England, qui est un biophysicien qui est directement dans les traces de Schrödinger et qui a pour lui maintenant l'utilisation de l'intelligence artificielle et de, pour faire sa modélisation. Eh bien, ces modèles semblent montrer, et c'est sa conclusion, que la vie est inévitable dans l'univers parce que c'est le meilleur moyen de combattre l'entropie, c'est-à-dire le désordre et le chaos. Si c'est le cas, à ce moment-là, on a ce que nous appelons une signature universelle ou une signature agnostique de la vie qui n'est plus liée à un environnement particulier, mais à un fonctionnement universel de ce qu'on connaît dans le cosmos autour de nous. Donc, à partir de là, on peut commencer à chercher la vie comme on la connaît et comme on ne la connaît pas. Parce que même si la biochimie est différente, la physique est partout la même dans l'univers.
Il y a des controverses aussi. Je ne sais pas si Jeremy England est controversé, mais vous rapportez dans À l'aube de nouveaux horizons les controverses autour des travaux du biophysicien Edward Trifonov en 2011. Hein, là, on enregistre en 2023, donc c'est tout récent encore, qui ont été contestés par le biologiste moléculaire. On voit bien justement la pluridisciplinarité qui est investie. Ernesto Di Mauro, vous nous raconteriez cette
controverse? Oui, c'est une histoire un petit peu intéressante. Il a décidé de chercher une définition de la vie en utilisant tous les termes qu'on pouvait imaginer ou qu'on pouvait trouver associés aux définitions de la vie. Et il a rassemblé tous ceux... C'est un petit peu un amalgame. Il a essayé de resserrer petit à petit ses définitions en disant par exemple que les ressources et puis, les ressources et l'environnement, c'était la même chose. Donc on amalgamait tout ça. Et quand il a eu fini d'amalgamer tous ces mots et de diminuer de plus en plus cette définition minimaliste de la vie, il est arrivé à une définition qui était pratiquement la même que celle d'Oparin finalement. Et... qui était que la vie était quelque chose qui transformait l'information et qui se modifiait, qui subissait une évolution darwinienne. Donc, et ensuite Mauro est arrivé là-dessus et a dit, eh bien, c'est bien beau tout ça, mais tout ce que vous me montrez là, c'est pas une définition de la vie, c'est une description.
Et on y revient. De la vie. Et alors, il y a des nouvelles théories. Nouvelles théories qui, elles, se fondent non pas sur la biologie, mais plus sur la physique quantique. Des théories qui suggèrent que nous pourrions faire partie d'un univers qui est à la fois vivant et conscient. Là aussi, il faut que vous nous éclairiez.
Oui, ça, c'est... À l'heure actuelle, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a tellement de choses qui se passent dans tous les domaines. Il y a la physique quantique qui nous emmène dans cette dimension de l'infiniment petit, de la marge de l'univers. Et des expériences qui semblent montrer que des photons, par exemple, peuvent communiquer alors qu'ils sont séparés par des distances absolument considérables. Vous agissez sur l'un et l'autre répond alors qu'il peut se trouver à de très grandes distances. Si ça, c'est vrai, ça veut dire qu'on peut faire fi des distances, on peut faire fi de tout un tas de choses dans l'univers qui sont un barrage à l'heure actuelle, par exemple pour la communication, pour les voyages interstellaires, etc. Est-ce que ça nous apprend quelque chose sur la communication, l'information à travers l'univers? Personnellement, et je suis pas vraiment qualifiée pour ça, c'est pas mon domaine, mais j'aimerais pouvoir penser que c'est peut-être une ouverture vers d'autres méthodes de recherche d'intelligence extraterrestre, par exemple. Imaginez que l'information se propage de cette manière-là partout dans l'univers. À ce moment-là, et on en a parlé un tout petit peu hier, c'est de dire que peut-être bien des intelligences extraterrestres sont déjà
parmi nous,
mais d'une manière qui ne nous est pas forcément visible ou perceptible encore.
Vous savez, la fiction devance souvent, pas toujours, mais souvent la réalité. Donc, la science-fiction l'a déjà pensé.
Peut-être parce qu'elle puise justement dans cet aspect-là. Mais personnellement, je regarde ces théories biophysiques avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Parce que quand on regarde l'astrobiologie et la recherche de la vie dans l'univers, ces 15 dernières années, les grandes avancées vers une définition de la vie se sont faites dans ces domaines-là, de la biophysique, de la cosmologie. Je pense que les grandes avancées sont là, ne sont pas nécessairement dans la recherche de l'origine de la vie.
Alors l'idée que nous serions, que nous pouvons communiquer à distance, en faisant fi des distances, peut-être même que nous sommes connectés avec ce qui nous entoure, c'est quelque chose, on comprend bien, en vous ayant écouté depuis lundi, Nathalie Cabrol, que ce sont des choses qui peuvent résonner en vous, avec ces concepts d'environnement, d'habitabilité sur lesquels vous travaillez, de coévolution. Mais quand vous dites aujourd'hui ce biophysique ou le biocentrisme, qui est quelque chose qui existe aujourd'hui, enfin qui a un fondement, en tous les cas vous en parlez dans vos ouvrages, qui remet en question la séparation entre vivant et non vivant, quand vous parlez de cosmologie, on sent bien que ce sont des territoires mouvants et que des non-scientifiques peuvent s'y engouffrer. Et même dans la façon dont vous rapportez ces réflexions, ces avancées, ces théories dans l'ouvrage que vous avez écrit, on sent bien que vous êtes prudente quand même et que vous dites il faut quand même bien toujours séparer le scientifique du non-scientifique, les faits des croyances. Est-ce que c'est pas de plus en plus compliqué, ça ?
Il faut être extrêmement discipliné, mais je dis souvent, la science, ça nous permet de comprendre l'univers parce qu'on peut mesurer. Alors que l'autre aspect, qui est plus spirituel, plus intuitif, nous permet d'essayer de comprendre ce qu'on ne peut pas mesurer. Et il y a l'humilité du chercheur, parce que on ne peut pas tout comprendre. On ne peut pas tout comprendre à l'heure actuelle, on est limité par nos technologies, on est limité. Et quand bien même on aurait répondu à toutes les questions, il y a toujours la question du pourquoi qui reste. Et celle-là, que ce soit la science ou la religion, qui toutes deux sont des inventions humaines, comme chacun le sait, on n'a pas la réponse à ces questions. On peut toujours essayer de répondre qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang ? Ok, il y a le Big Bang. Qu'est-ce qu'il y avait avant ? Moi, quand j'ai des conversations absolument phénoménales, j'ai la chance d'avoir l'ancien directeur de l'Observatoire du Vatican dans le conseil d'administration de l'Institut. Non seulement l'ancien, mais aussi le nouveau. Alors, on a des discussions phénoménales. On a les mêmes questions, parce que ils disent, OK, qu'est-ce qui est venu avant le Big Bang? Et je leur dis, mais qu'est-ce qui vient avant Dieu? Personne ne m'a présenté les parents de Dieu. Et ils sont très ouverts à ces questions-là. Donc, fondamentalement, il y a cet horizon intellectuel ou spirituel, selon que vous vouliez l'approcher d'une manière ou d'une autre. Et je crois que simplement la spiritualité, comme on dit, c'est simplement la manière dont on pose les questions. On peut être excessivement spirituel en étant scientifique. En tout cas, c'est comme ça que je me définis.
Ce qui est important, c'est de ne pas se considérer, alors nous, humains, on va dire, comme des observateurs extérieurs.
Nous sommes, encore une fois, l'expérience et l'expérimentateur. Mmh. Et donc, comment avoir une approche objective de ce résultat? La seule façon, peut-être, c'est de dire qu'on crée l'expérience au fur et à mesure qu'on avance. Et à ce moment-là, on commence à sortir un tout petit peu de ce que la science peut enfermer dans des barrières qui sont plus rationnelles.
Il y a quand même un problème que pose cette question de la non-séparation entre vivant et non-vivant, si je l'ai bien comprise en tout cas, hein, Nathalie Cabrol, c'est que si on considère que tout est vivant autour de nous, à quoi bon aller chercher la vie dans l'univers, puisque tout est déjà vivant ici? C'est un changement de paradigme fondamental pour la recherche.
C'est un changement de paradigme, mais ça veut dire aussi que l'univers manifeste la vie de manière différente. C'est pour ça que c'est important d'aller la chercher, parce que dans d'autres endroits, vous aurez d'autres manifestations de la vie. On est aujourd'hui à une époque où on commence à affleurer ces idées-là. Et pour autant, on n'a toujours pas de définition de la vie. Tout est en train d'arriver en même temps en ce moment. Il y a des gens que ça va peut-être faire bondir, mais effectivement, on peut chercher l'origine de la vie c'est le modèle qu'on connaît. Il y a beaucoup de monde qui est, quand je dis de monde, c'est-à-dire de planète, même en dehors du système solaire, qui ressemble à la Terre, etc. Donc ça a un sens d'aller chercher ça. On sait aussi avec les exoplanètes qu'il y a beaucoup de planètes différentes, mais c'est toujours l'environnement de la vie. Maintenant, il y a England, Schrödinger et les autres qui arrivent en disant « il y a la nature de la vie, la nature de la vie, la vie elle est partout ». Alors évidemment, la vie elle est partout, c'est tout autour de nous, c'est très proche, c'est très loin. Est-ce que c'est vraiment très loin? Parce que la physique quantique nous dit que tout communique, donc peut-être que c'est pas si loin que ça. Malgré tout, on voit des distances avec le James Webb. On vit dans un paradoxe complet et permanent. Et aujourd'hui, notre génération, elle commence simplement à tirer les fils de cette chose-là. Où on en sera dans quelques années, j'en sais rien, mais ça avance à toute allure, ça avance à toute allure.
Et à tout ça, il faut sans doute ajouter aujourd'hui l'apparition, le développement, l'essor de la vie artificielle, ou de ce qu'on appelle maintenant l'intelligence artificielle.
Parce que c'était pas assez compliqué déjà comme
oui,
ça.
Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça change, ça?
Je pense que ça participe exactement de la même chose, en fait. Ça veut dire que nous sommes une forme de vie, créée peut-être par un univers vivant ou pas vivant, ça n'a pas vraiment d'importance à ce niveau-là. Mais nous sommes en train de prendre les mêmes éléments, les mêmes molécules, les mêmes, et de fabriquer quelque chose qui commence à réfléchir, qui commence à agir un petit peu comme nous. Alors, personnellement, je suis de ceux qui pensent que l'intelligence artificielle, c'est un outil très intelligent. Je ne pense pas que c'est quelque chose de vivant, en tout cas pas encore. Mais il y a des choses qui sont beaucoup plus complexes. Les biomorphes, c'est différent, hein. C'est des cellules qui sont vivantes, qui sont prises sur des êtres vivants et qui sont robotisées. Donc vous avez les xénomorphes, les nanobots, les choses comme ça.
Dont on commence à beaucoup parler.
Et là, on commence à atteindre une frontière qui est un petit peu plus délicate à définir. Mais la raison pour laquelle je dis que ça participe du même principe, c'est-à-dire qu'on est à nouveau en train de créer une nouvelle forme d'existence, probablement. Donc est-ce qu'on répète des schémas? C'est un univers fractal qui se répète à toutes les dimensions. Je crois qu'il faut voir dans notre, dans qui nous sommes, dans la manière dont nous agissons, c'est peut-être la chose la plus proche d'une définition de la vie. On regarde beaucoup vers l'extérieur pour comprendre ce qu'est la vie et on oublie parfois de se retourner vers nous-mêmes et de voir qu'est-ce que nous faisons. En fait, on répète les schémas, je l'ai écrit dans le livre, c'est extrêmement frappant de voir comment les langages terrestres répètent la biochimie de la vie.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que la vie a été formée en commençant par des atomes, et ensuite des molécules organiques simples, ensuite un assemblement de molécules plus complexes, et ensuite l'ARN et l'ADN. Quand vous prenez... Et donc, en fait, ce que fait la vie, ce que fait une cellule, c'est communiquer avec l'extérieur et essayer d'avoir le plus possible d'informations pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir survivre, etc. Si vous prenez le langage, vous commencez avec une lettre, c'est votre atome. Vous les combinez, c'est la molécule simple. Vous faites des syllabes. Quand vous combinez ces syllabes, vous obtenez des mots. Quand vous voulez mettre votre phrase en fonction, vous mettez un verbe, c'est votre ARN, c'est votre ADN. Et vous pouvez ajouter le restant de molécules complexes pour vos prépositions, etc. C'est exactement la même chose.
C'est ce que vous appelez la grammaire de la vie.
C'est la grammaire de la vie. C'est la grammaire de la vie. Donc je pense personnellement qu'il y a aussi, c'est très important de se retourner vers soi-même. La science, elle peut regarder vers l'extérieur, regarder vers l'univers, mais nous sommes une émanation, nous sommes une manifestation de la vie. Et une partie de la réponse, elle se trouve en nous.
Ça, c'est ce que vous aimeriez transmettre, dire peut-être même aux plus jeunes de nos auditeurs et de nos auditrices, et surtout aux plus jeunes scientifiques en herbe qui vous écoutent et qui sont peut-être encore à aller chercher des têtards dans les étangs pour en faire des grenouilles dans les aquariums, Nathalie Cabrol, mais qui viendront peut-être un jour des grands scientifiques. Il faut s'arrêter aussi un moment, c'est-à-dire qu'il faut se donner quand même un certain nombre de limites si on veut pas que...
Je pense qu'il faut pas se donner de limites, en fait. Je pense que ce serait dommage de se
limiter. Le transhumanisme, c'est pas une limite?
Non, cette limite-là, oui. Cette limite-là, oui. Mais je pensais plutôt au processus scientifique, dans ce que vous disiez. Et je pense que c'est comme une respiration. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il faut tourner son esprit vers l'extérieur et regarder. Et puis d'autres moments où il faut le tourner vers l'intérieur. Et puis d'autres moments où il faut s'arrêter et penser pour remettre un petit peu tout en perspective. Quant au transhumanisme, C'est quelque chose qui est, à l'heure actuelle, en train de se développer. Il y a bien entendu, comme pour toutes les technologies, un aspect extrêmement bénéfique. Parce que ces outils du transhumanisme, ça peut aider des gens qui sont paralysés à marcher, ça peut aider à recréer des parties de votre corps, vous aider à fonctionner, ce sont les parties extrêmement bénéfiques. Et puis évidemment, il y a l'envers de la médaille, c'est-à-dire de dire qu'on va se transformer en super-héros et pouvoir...
C'est l'idée de l'homme augmenté, hein.
De l'homme augmenté.
Au service, justement, avec l'outil qu'est la vie, ou l'intelligence artificielle, de pouvoir, par exemple, se greffer une puce ou un nanorobot.
Oui, c'est l'homme bionique, en quelque sorte.
Pour vivre plus longtemps, pour ne pas vieillir, etc.
Du moment qu'on a un but. Qu'on a un but et qu'il est utile, je dirais pourquoi pas, mais. Il y a une espèce de fuite en avant à l'heure actuelle, et j'en ai parlé. C'est pas seulement le transhumanisme, c'est aussi les médias, la manière dont l'information est propagée à l'heure actuelle. L'information, c'est quelque chose qui est fondamental pour la vie. C'est comme ça qu'on a évolué pendant des milliards d'années avec notre environnement, qu'on a communiqué avec notre environnement et qu'on s'est adapté et qu'on a respecté cet équilibre. Aujourd'hui, l'information qu'on reçoit, on la reçoit plus directement. On la reçoit par des tas de médias différents. Cette information, elle est filtrée ou elle n'est pas filtrée. Et on ne connaît pas la qualité de l'information qu'on reçoit. Et j'en parle suffisamment longuement dans le livre, mais je pense qu'un des grands problèmes qu'on a aujourd'hui, à l'heure actuelle, de la réponse de la société vis-à-vis des grandes crises comme le Covid ou comme le changement climatique, c'est en partie dû au fait qu'on ne sait plus quelle est la qualité de l'information qu'on reçoit. Et donc, il y a ce doute qui est établi partout. Mais en même temps, on voit le résultat. Donc, c'est ce déséquilibre avec notre planète. Et le transhumanisme, c'est un petit peu une fuite en avant dans ce domaine-là.
Et en même temps, Nathalie Cabrol, vous aimez transmettre des messages d'espoir plutôt que des messages qui sont... d'ordre pessimiste, disons, même si le pessimisme aujourd'hui, en tous les cas, peut être proche du réalisme, mais transmettre des messages d'espoir, et puis peut-être vous prendre comme modèle, puisque d'une certaine façon, si on se retourne sur, cette fois-ci sur vous-même, hein, sur toute votre carrière, c'est quand même une carrière dans laquelle vous avez pu tracer votre chemin contre vents et marées, et réaliser votre rêve, vous montrer que c'est possible, en persévérant,
en s'acharnant. Le plus grand message, d'espoir, c'est pour moi que j'ai appris au cours du temps, c'est toujours de dire donner une chance à demain. Et c'est valable pour n'importe quoi. C'est valable pour le climat, c'est valable pour la vie de tous les jours. Et puis se faire confiance et avancer. Et surtout ne pas laisser qui que ce soit dicter qui nous pouvons être. Ou ce que nous devons faire. Il y a évidemment les règles de la société, bien évidemment, je parle sur l'évolution personnelle. Il y a des tas de gens qui ont essayé de m'expliquer pourquoi je ne pouvais pas faire ce que j'avais envie de faire, parce que ça n'existait pas. J'ai dit, ok, si ça n'existe pas, je vais l'inventer.
Merci Nathalie Cabrol.
Je vous en prie.
C'était À Voix Nue, chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Hervé Dubreuil, réalisation Guillaume Baldi, une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.